résultat par local, de l'élixir et du flacon, du contenu et du contenu. Non.
Radio Campus.
Non, je vous en parle parce qu'on vit un tournant capital de notre histoire. Une nouvelle ère. On entre dans une époque charnière.
Vraiment?
Ouais.
Radio Campus 88.3 FM.
Le moulin à parole. Restitution de l'atelier radiophonique et paroles partagées. Le moulin à parole.
La radio des écoles. Atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
Bonjour et bienvenue à vous sur Radio Campus Orléans. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une série d'émissions sur la démocratie dans le monde avec la terminale G7 où chaque élève jouera un rôle d'historien ou de journaliste par exemple. Leurs interventions sont le fruit de recherches et parfois de leurs opinions. Pour commencer, nous allons aborder le sujet de la montée de l'extrême droite en Europe. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Nathan. Vous êtes venu afin de nous ouvrir les yeux sur le sujet de la montée de l'extrême droite.
Oui, je vais parler d'un véritable danger pour les démocraties européennes, car dans un peu de temps, les élections européennes arrivent et d'après leséchos.fr, le RN possède 30% des voix en France. Depuis une quinzaine d'années, on remarque de grands regroupements d'idéologies aux frontières des pensées démocratiques. En 2022, on constate la création du groupe Identité et Démocratie, mené entre autres par Marine Le Pen et Marco Zanni, rassemblant 76 députés au Parlement européen. En Europe, de multiples regroupements émergent. Pour commencer, les rassemblements néo-nazis en Allemagne connaissent une fulgurante augmentation de 35 à 100 dizaines. Mais on peut aussi parler de la Roumanie où Viktor Orban en Hongrie, le Premier ministre, refusant l'asile aux migrants pour ne pas être le Marseille de l'Europe centrale. Il base sa politique sur une notion de grand remplacement et la démocratie illibérale ne fait qu'accentuer son emprise sur le pays.
Merci Nathan pour cette superbe explication. Il est vrai que les élections arrivent à grands pas. Pensez à aller voter ce 9 juin. Maintenant, nous avons sûrement quelques interrogations sur le sujet. Alors Antonin, quel est votre avis sur cette montée en flèche de l'extrême droite ?
Eh oui, comme vous le savez, depuis quelques années, on voit arriver un souffle nouveau sur de nombreux partis d'extrême droite dans toute l'Europe, tels qu'en Allemagne, malgré un passé marqué de la dictature du Troisième Reich. Car des concerts de musique sont organisés, mais ont été qualifiés de rassemblements cachés du parti nazi. Un autre pays est la Suède, qui depuis des années arbitre une classe sociale défavorisée, qui par souci d'ignorance s'accorde à croire des opinions extrêmes que l'on doit qualifier de nazis. Une origine de ces propos est datée des années 90, quand le député Ali Esbati a remis le sujet sur la table, sachant que son parti est connu pour diffuser des musiques xénophobes. En tant que politicien, je trouve irrespectueux et stupide qu'à notre époque, qu'une partie de la population soit encore discriminée. Nos grands-parents ont pourtant combattu contre ces idées lors de la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça malheureux que l'on reproduise des erreurs du passé qui pourtant ont traumatisé une génération entière. Je finirai donc par dire que l'Europe tout entière prend un virage très extrême qui pourrait mener à sa chute.
Très bien Antonin. Maintenant Jean, vous êtes en accord avec lui ? Quel est votre point de vue sur cela ?
Les politiciens d'extrême droite possèdent une maîtrise du langage assez impressionnante pour réussir à influencer les gens et à faire penser comme eux. Je vais vous présenter certaines de leurs plus belles paroles afin de comprendre comment ils s'en sont arrivés là aujourd'hui et pourquoi leur réputation devient-elle de plus en plus grande. Ne dansons pas sur leur partition, a marqué M. Orban sur les affiches qu'il a diffusées dans le pays. Il dénonce la Commission européenne qui, fin 2022, a gelé près de 28 milliards d'euros de fonds communautaires. Il explique clairement ici qu'il joue avec la pression de l'Union européenne. Il se comporte comme un dictateur quand il le peut, mais il demande et se plie à l'Union européenne quand il a besoin d'eux. Ce que vous savez pas, c'est que l'Union européenne a gelé cet argent en raison de ses dérives en matière d'état de droit.
Merci à vous Jean pour cette superbe chronique, et merci aussi à Antonin et Nathan d'avoir été présents sur ce plateau.
Merci, c'était un plaisir.
Merci à vous de nous avoir écoutés.
Merci et à très vite.
Après une courte pause musicale, nous retrouverons Grady pour une émission historique, la fin de la dictature au Portugal. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous laisse maintenant avec l'odeur de l'essence de Aurel San.
La nostalgie,
vie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz fartent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler. Sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière. Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque d'empire, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions. Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est. Donc on est lâche, on se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur le Portugal qui célébrait il y a peu la fin de sa dictature. Pour ce faire, nous sommes en présence de Madame Rachel, une historienne qui va nous présenter cet événement et nous expliquer ce changement radical. Pour clarifier auprès de nos auditeurs, pouvez-vous nous en dire plus sur la dictature qui a été mise en place au Portugal avant la démocratie ?
Au moment de sa disparition, la dictature portugaise était la plus vieille d'Europe. Elle a été mise en place tout d'abord en 1926 à la suite d'un coup d'État mené par l'armée jusqu'en 1933 sous Oscar Carmona, président de la République portugaise. C'est alors qu'une nouvelle constitution met un nouveau régime intitulé Estado Novo, État Nouveau. Il s'agit d'une gouvernance autoritaire qui a été élaborée par le Premier ministre, président du Conseil, António de Oliveira Salazar, depuis 1932, qui a été voté en 1933, on la surnomme la dictature salazariste. De plus, il a pour devise officielle « Dieu, patrie, famille ». Le régime est très axé sur le catholicisme. La particularité de ce régime est le suivant. Il est antidémocratique, corporatiste, ainsi qu'une opposition aux communistes, au socialisme, au syndicalisme, à l'anarchisme et au libéralisme. On ajoute à cela le colonialisme, qui fait également partie des doctrines du régime salazariste. En effet, Salazar souhaite garder les colonies portugaises telles que l'Angola, le Mozambique ou encore la Guinée-Bissau, en refusant leur indépendance, et il va répondre par la force en envoyant des forces armées.
Comment le peuple portugais a réussi à se soulever face à cette dictature ?
Le peuple portugais parvient à se soulever grâce à l'aide d'une opération militaire. Des jeunes officiers membres du MFA, mouvement des forces armées portugaises, en effet, des militaires donnent le coup d'envoi pour mettre fin au régime autoritaire salazariste du dirigeant Marcelo Caetano, le 25 avril 1974. Tout d'abord, il s'agit d'une révolte de jeunes qui contestent les conflits coloniaux en Afrique, puis leur objectif est d'instaurer la démocratie dans le pays.
Et pourquoi cette révolution est nommée la révolution des œillets ?
Cette révolution est nommée la révolution des œillets car le jour de la révolution, soit le 25 avril 1974, le signe de ralliement des membres participant à l'opération était un œillet rouge, placé au niveau de la boutonnière ou introduit dans le canon de leurs armes. L'œillet rouge symbolise donc la révolution et la libération du pays. Cet événement portera ensuite le nom de cette fleur, devenue emblématique pour le Portugal.
On dit de la révolution des œillets que c'est une insurrection assez unique en son genre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
La particularité de cette insurrection, c'est que malgré le fait qu'elle soit réalisée par des militaires, cette révolution s'est faite de manière pacifique et presque sans effusion de sang. En effet, seule la PIDE, la police politique de la dictature, s'impose à ce coup d'État et tire dans la foule, faisant 4 morts, unique victime de la révolution.
On se retrouve juste après la pause musique avec l'artiste Amalia Rodriguez, la reine du fado, avec son morceau intitulé « Abandono ». Parfois accusée de servir la propagande de la dictature, elle a pourtant évoqué dans cette chanson un détenu emprisonné parmi les opposants politiques.
Foi de noite.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Nous revoilà après cette courte pause musique avec Rachel. Nous allons aborder le passé colonial du Portugal. Pouvez-vous nous éclairer un peu sur ce sujet ?
Oui, avec plaisir. Pour recontextualiser, au XVe siècle, le Portugal se lance dans une politique d'expansion. Politique qui va atteindre son apogée au XVIe siècle en possédant des territoires sur les cinq continents tels que le Brésil, le Cap-Vert ou encore le Sri Lanka. Pourtant, à partir du XVIe siècle, l'empire colonial portugais va commencer à s'effriter et donc à perdre des territoires comme Malacca, le Brésil ou Ambon. Toutefois, il conserve des territoires jusqu'au XXe siècle et c'est d'ailleurs cette conservation de colonies, alors que le monde fait face à une décolonisation, qui va être une des raisons du soulèvement du peuple portugais. En effet, en 1961 éclatent les guerres coloniales portugaises qui opposent les forces de libération des colonies portugaises, donc l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert aux forces armées portugaises qui, pour leur indépendance. Le gouvernement portugais, qui lui veut garder des colonies, résiste en engageant de nombreux hommes et plus de la moitié du budget national, et cela au détriment de sa propre population.
Les peuples colonisés vont-ils réagir à cette conservation prolongée des colonies ?
Oui, car c'est la conservation de colonies, alors que le monde fait face à une décolonisation qui va être une des raisons du soulèvement du peuple portugais. En effet, en 1961 éclatent les guerres coloniales portugaises qui opposent les forces de libération des colonies portugaises, donc l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, aux forces armées portugaises pour leur indépendance. Le gouvernement portugais, qui lui veut garder ses colonies, résiste en engageant de nombreux hommes et plus de la moitié du budget national, et cela au détriment de sa propre population. De ce fait, le peuple portugais a commencé à immigrer, notamment vers la France, pour fuir la dictature salazariste, les difficiles conditions de vie et le possible recrutement des hommes dans les guerres coloniales. Ces guerres vont prendre fin grâce à la Révolution des œillets en 1974, qui renverse la dictature salazariste et permet aux colonies d'obtenir leur indépendance. En 1974, pour la Guinée-Bissau, puis en 1975, pour le Cap-Vert, Sao Tomé, l'Angola et le Mozambique.
Merci pour cet éclairage, mais un élément m'intéresse. Que s'est-il passé au Portugal après la Révolution ?
Après la Révolution, le pouvoir est acquis par la Junte de Salut National, qui est un comité révolutionnaire chargé de gouverner le pays. Le temps de mettre en place la démocratie en élaborant une nouvelle constitution, une interdiction de la censure, une liberté d'expression et la liberté des opposants politiques à la dictature. C'est le 2 avril 1976 que la nouvelle constitution est adoptée et que des élections libres sont organisées. C'est Ramalho Eanes qui est élu président de la République au suffrage direct le 27 juin 1976, puis le premier gouvernement constitutionnel se forme en juillet 1976. Cependant, ce gouvernement va devoir faire face à des attaques de partis politiques, notamment de droite et d'extrême droite, qui souhaitent remettre en place la dictature.
Merci pour cette précision. 50 ans après, comment se porte la démocratie au Portugal ?
50 ans après, cette démocratie subsiste toujours une république composée d'un gouvernement et d'une assemblée. En 1923, le Portugal faisant des 25 pays les plus démocratiques dans le monde avec un indice de 7,95. Cependant, lors des dernières élections législatives, le parti d'extrême droite Chega, fondé par André Ventura, récolte 18% des voix, devenant le troisième parti du pays. Ce parti reprend explicitement la devise salazariste « Dieu, patrie, famille et travail ». Il y a donc une résurgence de l'idéologie salazariste.
Effectivement, le parti essaye de remettre le passé dans le présent. Merci Rachel d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir expliqué ce tournant de l'histoire portugaise. Je vous remercie également vous, auditeurs, d'avoir écouté notre chronique histoire. Nous allons poursuivre la thématique de la démocratie avec Agathe, qui a choisi d'évoquer la situation en République démocratique du Congo.
Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler de la République démocratique du Congo, aussi appelée RDC, et plus précisément de la démocratie qui dans ce pays ne semble pas fonctionner. Et pour cela, nous sommes en compagnie de très charmants invités qui nous parleront de ce sujet plus en profondeur avec Mariachi Issouf, Viviane Kaba, Marceline Goma et son invité Kélian Jazz. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Pour parler de la démocratie au Congo, nous accueillons notre chère historienne Mariachi Issouf qui va commencer par nous éclairer en nous racontant l'histoire du Congo et comment la démocratie a émergé et dans quel contexte.
Alors tout d'abord, bonjour Madame Agathe et bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour aborder la démocratie au Congo qui, je précise, est un sujet très délicat à prendre avec beaucoup de pincettes. Le Congo, auparavant, était une colonie belge pendant plus de deux siècles, et c'est seulement après 46 ans de combats acharnés contre la Belgique de 1914 à 1960 qu'en juin 1960, elle déclare son indépendance.
Comment cette rupture Belgique-Congo s'est-elle déroulée ?
La Belgique prenait une très grande place au Congo et installait un climat de terreur, de dictature, et les Congolais n'en pouvaient plus. On le voit bien qu'après cette libération, si je puis dire, les Congolais étaient soulagés. Notamment avec le fait que tout de suite après, en 1960, le Congo installe une démocratie avec un président, Joseph Kasuvubu, voté au suffrage universel indirect. De même, on voit bien que les Congolais veulent mener une politique démocratique où le peuple a plus de liberté, plus de droits.
Si le Congo, avec cette réelle volonté d'installer un régime stable, comment le concept de démocratie au Congo a pu être autant bafoué ?
Alors, il faut savoir que pendant le mandat de Joseph Kasavubu, le premier président, un coup d'état militaire s'est produit. Le 25 juillet 1965, Joseph Désiré Mobutu rentre au pouvoir par la force pendant la crise congolaise lorsque le pays était très instable économiquement et socialement. C'est alors que pendant plus de 32 ans, il installe un régime dictatorial mené par la force.
Comment s'est déroulée cette dictature ? Quelle perception avait le peuple congolais qui avait vécu plus de deux siècles de colonies belges, voire encore une fois leur pays contraint, donc ne pas être libre ?
Le peuple n'avait pas son mot à dire sur la situation. La liberté individuelle est bafouée, la corruption à son paroxysme. En effet, ce dictateur s'enrichissait personnellement grâce à l'exploitation économique. C'était une période de violation généralisée des droits de l'homme. Le peuple souffrait et n'en pouvait plus. C'est pour cela, lors de la première guerre du Congo en 1996, avec le soutien rwandais et ougandais, le 17 mai 1997, le régime de Kasavubu s'est fait renverser par la rébellion conduite par Laurent Désiré Kabila.
Après ce renversement, la situation a-t-elle changé ?
Non, rien n'a changé. Si je puis dire, la situation s'est dégradée. Laurent Désiré Kabila rentre au pouvoir en 1997 et meurt pendant la deuxième guerre du Congo qui se déroule de 1998 à 2002. Il est assassiné en 2001 et laisse succéder son fils Joseph Kabila, entré au pouvoir par intérim et par succession de son père en 2001. De là, il se fait régulièrement réélire, notamment en 2006 et 2011. Cela fait plus de 17 ans qu'il est au pouvoir dans une soi-disant démocratie qui se fait toujours dans un climat de violence. Le recours à la violence pour réprimer les étudiants ou les manifestations de rue, ainsi que pour dissuader d'éventuels contestataires, sont des méthodes très fréquentes. En revanche, lors des élections 2018, il se fait remplacer par un nouveau président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est réélu lors des élections de 2023.
D'accord, merci pour cette intervention, Issouf Mariachi. Elle nous a été très enrichissante et nous a permis d'en apprendre plus sur l'histoire du Congo. À présent, nous allons nous interroger sur la situation politique en RDC et pour cela, nous allons avoir l'aide d'une politologue. Kaba Viviane, que nous retrouverons après « Indépendance Tcha-Tcha », une chanson créée le 20 janvier 1960 par Joseph Kabasele, alias Grand Calais et l'Africain Jazz. Elle célèbre l'indépendance de la République démocratique du Congo, ancien Congo belge, le 30 juin 1960.
Naka
Des écoles sur Radio Campus Orléans.
Nous retrouvons donc Kaba Viviane, politologue, pour évoquer la situation de la RDC. Pouvez-vous présenter votre travail auprès de nos auditeurs ?
Bien sûr. Être politologue signifie étudier la science politique. Cela fait en effet plusieurs années que j'étudie la situation politique en RDC, qui est d'ailleurs très complexe. Et je m'interroge aussi notamment sur les textes de loi qui sont censés représenter la démocratie en RDC.
Très bien. D'après vos connaissances en texte de loi, pensez-vous que la RDC soit, comme son nom l'indique, une démocratie ?
Je trouve cette question très pertinente et nous allons l'aborder, mais avant ça, j'aimerais d'abord définir la notion de démocratie. La démocratie est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. C'est-à-dire les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont divisés et n'appartiennent pas à une seule et même personne. Les lois sont illustrées par une constitution. La RDC possède donc une constitution et d'après la constitution, la RDC aurait tout d'une démocratie. Plusieurs articles nous montrent que ce pays est une démocratie. L'article 5 de la Constitution, par exemple, stipule « La souveraineté nationale appartient au peuple ».
En effet, ça a l'air d'être une démocratie. La Constitution, comme plusieurs autres pays d'ailleurs, est-elle modifiée régulièrement ?
Bien sûr, la RDC n'est une démocratie qu'en apparence, si je peux me permettre. Nous avons des lois, des procédures, etc., censées faire représenter cette démocratie, mais ceux-ci sont changés en fonction de ce que veut le chef d'État. En 2011, par exemple, donc récemment, l'article 71 de la Constitution a été modifié. Cet article concerne le mode de scrutin présidentiel. De plus, on a aussi l'adoption d'une nouvelle loi, qui nous indique qu'à partir de 2011, le président est élu à la majorité simple au premier tour pour un mandat de 5 ans et non pas à la majorité absolue au second tour.
D'après vous, pourquoi aurait-il modifié cette loi ?
Eh bien, c'est très simple. C'est juste une manière d'accéder au pouvoir plus facilement. De plus, la RDC est confrontée à des crises politiques dont l'une des causes principales est la contestation de la légitimité des institutions de leurs animateurs. Il y a donc une certaine forme de protestation de la part des citoyens congolais.
Je vois. J'aurais une dernière question. Que pensez-vous des dernières élections qui se sont déroulées il y a quelques mois où un certain Félix Tshisekedi a été réélu avec 74,47% des voix ?
Je trouve ces résultats très étonnants, sachant qu'il y avait quand même 26 candidats. C'est très rare qu'un président ait autant de voix, surtout que là nous parlons du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Prenons la France par exemple. Lors des élections en 2022, les résultats du premier tour étaient très serrés. Nous avions Emmanuel Macron avec 28% des voix, suivi de Marine Le Pen avec 23% des voix, et ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 21%. C'est donc très serré, alors qu'en RDC, le président actuel a remporté les élections avec presque 80% des voix. Sachant que lors de son premier mandat, il a reçu de nombreux commentaires négatifs parce qu'il ne serait pas compétent, d'après plusieurs citoyens congolais.
Très bien. Merci Kaba Viviane. La situation politique en RDC est donc l'objet de plusieurs débats, notamment au sein de la population. Pour mieux nous éclairer sur ce sujet, je vais laisser la parole à notre journaliste, Goma Marceline, accompagnée de son témoin venu tout droit de la RDC, Kélian Jazz, pour avoir un avis plus concret sur la situation en RDC.
La radio des écoles sur Radio Campus Orléans.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue Goma Marceline et Jazz Kylian sur Radio Campus.
Alors, il est vrai qu'au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo a récemment été le théâtre d'élections cruciales, suscitant des espoirs, des désespoirs et des inquiétudes au sein de sa population diversifiée. En tant que journaliste, j'ai sillonné les rues animées de Kinshasa pour recueillir les opinions variées des habitants sur cette étape cruciale de leur parcours démocratique. Certains expriment un optimisme prudent, saluant les élections comme une chance de renforcer la stabilité politique et de promouvoir le développement économique. Lors de mon séjour en RDC, j'ai pu rencontrer plusieurs citoyens et j'ai aujourd'hui la chance d'avoir à mes côtés un avocat qui va nous exprimer son ressenti sur la situation en RDC. Je vais à présent laisser la parole à mon invité, Kélian Jazz.
Merci. En tant que citoyen congolais, je porte un regard nuancé sur notre président actuel qui a été réélu pour un deuxième mandat. D'une part, certaines initiatives économiques ont apporté des améliorations à nos conditions de vie dans certaines régions. Les investissements dans les infrastructures et le développement ont créé des opportunités pour de nombreux citoyens. Cependant, nous considérons ces efforts comme trop faibles en raison de la gravité de la situation. Aujourd'hui, en plus d'une pauvreté de masse dans certaines régions de la RDC et une crise politique, nous sommes aussi confrontés à des massacres de masse exercés sur nos frères congolais par des rebelles rwandais qui pillent nos ressources. Nous aimerions que le président aborde ce sujet et qu'il agisse pour que ces massacres s'arrêtent le plus tôt possible.
Ok, je vois, c'est en effet un sujet assez sensible. Nous aimerions aussi savoir quels étaient vos ressentis lors de ces élections.
Les élections présidentielles sont un moment crucial pour exprimer nos désirs et nos inquiétudes. Certains d'entre nous voient ces élections comme une opportunité de changement, espérant l'émergence de nouveaux candidats capables de répondre aux besoins du peuple. Mais il y a aussi une réticence généralisée en raison des défis persistants liés à la corruption dans le corpus électoral. Les efforts pour assurer des élections libres et équitables sont indispensables pour que le gouvernement retrouve notre confiance.
D'accord. Pour finir, pourriez-vous nous dire ce que la population espère tirer de ces élections ?
Bien sûr. Alors que les citoyens espèrent avoir un gouvernement moins corrompu qui agit vraiment pour le peuple et pas pour remplir les poches des personnes haut placées. Malgré les défis, l'espoir persiste dans nos cœurs pour une démocratie robuste, équitable et prospère.
Très bien, merci Kéliane pour cette intervention. Elle nous a permis de réaliser que malgré tous les obstacles présents actuellement en RDC, la population garde espoir et veut le meilleur pour son pays. Cependant, d'autres citoyens expriment des réserves et des préoccupations. Certains soulignent les défis persistants tels que la violence politique, appelant à des mesures concrètes pour garantir des élections libres et équitables. Les résultats électoraux ont suscité des réactions mitigées, alors que certains saluent la victoire du candidat élu comme un signe de stabilité, d'autres remettent en question l'intégrité du processus électoral. Cette diversité d'opinions souligne l'importance de maintenir un dialogue ouvert et constructif au sein de la société congolaise. Au-delà des résultats, les citoyens insistent sur la nécessité d'un président capable de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux du pays. La voix du peuple, riche et complexe, résonne comme un appel à une gouvernance transparente et inclusive.
Notre rubrique touche maintenant à sa fin. Merci à vous quatre pour nous avoir éclairés sur le sujet. Il est vrai que c'est assez contradictoire d'appeler ce pays République démocratique du Congo quand les actions menées derrière ne représentent pas cette démocratie. On en vient donc à remettre en cause cette démocratie. C'est la fin de cette série d'émissions spécialement consacrée au sujet de la démocratie dans le monde. Merci à vous, nos auditeurs, de nous écouter tous les jours.
La radio des écoles. Atelier d'initiation d'expression radiophonique dans les établissements scolaires d'Orléans. Sur Radio Campus 88.3, la radio des écoles.
Lundi matin, sur le bitume, le même refrain, une petite brume. Sur le chemin, j'ai remis mon costume de petit pantin, comme d'habitude. Je suis un animal de type commercial, un personnage urbain, un animal humain. Lundi matin, j'ai rendez-vous, le même refrain. J'ai dans mes mains le passe-partout du petit requin, du petit voyou. Je suis un animal de type commercial, un passe-partout. je marche droit, je fais des lignes avec mes pas. Je suis sans fil mais connecté, un personnage particulier, un peu sensible et en danger. Mardi matin, je continue le même refrain sur la même avenue. Sur mes empreintes, je suis revenue. Chaque matin, je me suis jamais perdue. Je suis un animal de type commercial, un personnage urbain, un animal humain. Je suis un animal de type commercial, un personnage urbain, un animal humain.
creation. Give thanks and praises. Give thanks and praises. Creation.